Bien, nous allons commencer. Donc le sujet, c'est quelle est la position du chrétien en politique ? Alors c'est un sujet extrêmement vaste qu'on peut prendre de différentes manières. Je partirai tout simplement de l'actualité, c'est-à-dire les élections qui vont avoir lieu dans moins de 15 jours. Alors tout le monde dit à chaque élection que c'est un tournant, que ça va être quelque chose de tout à fait extraordinaire, qu'on va voir ce qu'on va voir. Et puis ça fait quand même à peu près 2 siècles que ça dure et on est souvent déçus. Bon, ça c'est la première constatation, élection, piège, voilà, donc, ou alors, il faut se référer à quelque chose d'autre, quelque chose de plus fondamental. Et je pense qu'il y a un élément qui pourrait aider à cela aujourd'hui, c'est le climat du monde dans lequel on vit. On a l'impression, enfin, c'est pas qu'une impression, c'est une certitude, qu'on est à la fin d'une époque, qu'on est à la fin d'une période, la fin de l'époque individualiste, néo-païenne, qui est née de la Renaissance, qui est née de la Réforme, qui est née de la Révolution. Et c'est une fin de civilisation, une fin de société, mais pour aller où ? Bon, on est à un tournant extraordinaire, vous avez la chance d'être jeune aujourd'hui, parce que vous vivez sans doute ce qu'ont vécu les Romains, enfin ce qu'il en restait, au 5e et au 6e siècle, au moment de l'effondrement de l'Empire romain. Et comme à l'époque, eh bien, ce sont toujours des monastères et des jeunes qui vont sauver le monde. Alors, on nous propose aujourd'hui, dans les élections, uniquement le choix entre la gauche et la droite. Alors, encore qu'aujourd'hui, ce ne soit plus très clair, qui est à gauche, qui est à droite. Le problème, c'est de savoir si la gauche et la droite sont une espérance. Est-ce qu'elles ont des réponses ? Et est-ce que, finalement, depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis la Révolution, le passage de la droite à la gauche, ce n'est pas tout simplement un jeu de dupes ? À l'opposition, la droite du libéralisme et la gauche du socialisme, parce que ce n'est pas simplement un jeu de dupes. Les uns pour la liberté, les libéraux, les autres pour l'égalité, les socialistes. Quant à la fraternité, on ne la voit pas beaucoup. Bon. Alors, j'allais dire, il y a 60 ans, 70 ans, l'opposition était assez claire. Il y avait le bloc de l'Est, c'était le bloc communiste, et puis il y avait le bloc de l'Ouest, c'était le bloc libéral. Donc, d'une manière générale, on était plutôt pour le bloc de l'Ouest que pour le bloc de l'Est, sauf quand on était communiste, bien sûr, mais je ne pense pas que ça vous soit arrivé. Depuis 89-90, il y a un élément nouveau en géopolitique, c'est l'effondrement du communisme, en tout cas dans la majorité des pays qu'il dominait, puis l'apparition de l'Europe, l'apparition de pays nouveaux, et puis le surgissement surtout, et ça c'est très actuel, du terrorisme et de l'islam, qui était un phénomène qu'on ne connaissait pas il y a 60 ou 70 ans. Par rapport à ça, le monde devient extraordinairement multipolaire, et puis il y a une espèce d'accélération du temps, développement des risques liés à la crise qu'on connaît, financière, sociale, économique. Bon, autrement dit, tout ça, ça aboutit à quoi ? Eh bien, ça aboutit aujourd'hui à une grande tentation, qui est la tentation du désespoir en politique. Cette tentation du désespoir, elle vient du climat que je viens de dire, et elle aboutit au mépris du politique, au mépris des jeux stériles du parti, et au fatalisme, en se disant, de toute façon, quoi qu'on fasse, on ne peut rien faire, d'où l'abstentionnisme politique, pas simplement l'abstentionnisme dans le vote, mais l'abstentionnisme des questions politiques, moi je ne fais pas de politique, et le repliement sur soi, alors soit qu'on soit écolo et qu'on s'intéresse aux petites bêtes, donc on va se focaliser sur la nature, ce qu'on croit être la nature, soit sur l'individualisme total, on se replie totalement sur soi-même, soit alors, danger chez les cathos, un surnaturalisme extrême, c'est-à-dire on ne s'occupe plus des problèmes de la cité, parce que ça c'est le monde, ça c'est vulgaire, on ne s'occupe que du surnaturel, ce qui est une erreur aussi très grave. Ou alors on sombre purement et simplement dans l'anarchie antisociale, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus du tout de la société et on régresse finalement à peu près au niveau de l'animalité. Or, s'il ne faut pas retomber dans les mêmes ornières gauche et droite, il faut se souvenir aussi de ce que disait Maurras, pardon pour citer Maurras ici, le désespoir en politique est une sottise absolue. Donc, il ne faut pas désespérer. Alors, je vous propose, mon plan est ici, un plan en deux parties, c'est très Sciences Po, ça, d'une part, d'autre part. Enfin, à l'époque, quand j'étais à Sciences Po, c'était comme ça, d'une part, d'autre part. D'une part, il faut dire oui, d'autre part, il faut dire non. Conclusion, on attend. Alors, première partie, il faut rejeter les idéologies politiques, le libéralisme, le socialisme et, entre guillemets, les fascismes. Deuxièmement, pour retrouver la politique naturelle, c'est-à-dire la DSE, c'est la doctrine sociale de l'Église, et le Christ-Roi. Donc d'abord, il faut rejeter les idéologies politiques. Alors la première de ces idéologies politiques, c'est évidemment le libéralisme, ou ce qu'on pourrait appeler le capitalisme libéral. Alors, qu'est-ce que c'est que le capitalisme libéral ? La définition du capitalisme, c'est une définition très simple, c'est un régime économique et d'une certaine manière politique par conséquent, qui est fondé sur la liberté la plus large possible et sur la propriété individuelle. Ça, c'est l'aspect social, politique. Du point de vue philosophique, le libéralisme fait de la liberté individuelle un absolu. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes plus référés à une vérité, à quelque chose qui est extrinsèque à nous, mais simplement à une vérité intérieure qui est changeante, qui est individuelle, qui est mouvante et qui ne correspond à rien dans le réel objectif. Est vrai ce que je juge être vrai. Ça, c'est le libéralisme qui est à la fois, donc je fais court, hein, philosophique, économique, et qui a des conséquences, évidemment, sur le plan social. Alors, le libéralisme, je le rappelle, c'est quand même une idéologie qui a été condamnée par l'Église dès le milieu du XIXe siècle. Il faut s'en souvenir. Et cette condamnation a été portée d'une manière très claire, en particulier, mais pas seulement, dans l'encyclique du pape Léon XIII, Rerum Novarum, 1892. La grande encyclique, qu'on dit être la première encyclique sociale, en réalité il y en a eu d'autres avant du pape Pie IX, mais c'est la première qui a profondément marqué les esprits. Alors le libéralisme, ça s'est traduit comment ? Eh bien la liberté, encore une fois, c'est le critère fondamental de la vie individuelle et de la vie collective. C'est ce que disait le premier ministre Guizot qui était ministre de Louis-Philippe, premier, roi des Français, et non pas roi de France, qui disait « laissez faire, laissez passer ». Laisser faire, laisser passer, c'est-à-dire il faut plus aucune contrainte, plus de corporations, plus de jurants, tout ce qui existait sous l'Ancien Régime. Il fallait une liberté totale de commerce, une liberté totale de circulation, bref, une liberté totale, j'ajoute, une liberté totale pour ceux qui en avaient les moyens. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois l'argent et le pouvoir. Bon. Ce qui fait que, attention aussi quand on parle de capitalisme libéral, ne pas rejeter le bébé avec l'eau du bain, comme disent les Anglais, il ne faut pas rejeter forcément le capitalisme qui est tout simplement un système dans lequel vous avez à la fois du capital et du travail. Je ne vois pas très bien comment on pourrait supprimer le capital. Il y en a qui rêvent aussi de supprimer le travail, mais ça c'est un autre problème. Si vous n'avez plus ni capital ni travail, vous n'avez plus d'économie du tout. Donc le capital, il y aura toujours du capital en économie. En revanche, du capitalisme libéral, ça c'est une idéologie. Le capital est un fait économique, le capitalisme libéral, c'est une idéologie qui s'est traduite en France par ce qu'on appelait les physiocrates à la fin de l'Ancien Régime, Turgot, Quesnay, etc., et puis en Angleterre par Adam Smith, qui est le grand auteur libéral, et qui a écrit un livre qui s'appelait « La richesse des nations ». Et puis après, bien sûr, Ricardo, Malthus, le malthusianisme, hein, vous avez tous entendu parler de lui, eh bien, c'était les grands théoriciens du capitalisme libéral. Conséquence du capitalisme libéral, historiquement, eh bien, ça a été la Révolution française. Bon, je fais court, hein, parce qu'on pourrait nuancer beaucoup. Enfin, la Révolution française, ça a été une révolution politique et juridique qui a été d'abord la suppression de l'Ancien Régime, pas d'abord la suppression de la monarchie, j'allais dire c'est anecdotique, enfin pas pour Louis XVI, bien sûr, mais c'est anecdotique. Ce qui est le plus important, c'est une certaine philosophie de la société qui a été changée. Au lieu que la société soit un ordre social fondé sur des corps organisés, des corporations, des jurants, des provinces, des libertés en bas, comme on disait à l'époque, eh bien, ça a été une razzia complète sur toutes les organisations sociales qui pouvaient exister. On a mis tout ça à plat, la fameuse loi Le Chapelier et le décret d'Allard, qui ont supprimé les corporations et qui ont fait que désormais, eh bien, le propriétaire capitaliste libéral était maître chez lui. Certes, il signait un contrat avec les ouvriers, mais le contrat avec les ouvriers, c'était, comme disait, je ne sais plus, je crois que c'était Lamennais qui disait ça, c'était le renard libre dans le poulailler libre. C'est-à-dire qu'en fait, le prolétaire n'avait que la force de son bras à vendre, et puis ben, les salaires étaient complètement inégaux. Donc, la société a été complètement changée. Il y a eu donc un nouveau droit qui est devenu individualiste, qui n'était plus du tout le droit de l'Ancien Régime, je crois qu'il y en a qui font du droit ici, donc c'était le droit romain, on est revenu au droit romain, par exemple pour la propriété était considérée comme un absolu, alors que dans la doctrine chrétienne, qui était vécue jusque-là, pas forcément formalisée dans les textes, mais vécue jusque-là, la propriété était effectivement une propriété privée, elle existait en tant que privée, mais il y avait en même temps une destination universelle des biens, ce qui est d'ailleurs la doctrine de l'Église encore aujourd'hui. Il y a une destination universelle des biens. Même si vous êtes légitimement propriétaire de votre propriété, vous n'avez pas le jus utendi et abutendi, le droit d'user et d'abuser, qui est inscrit dans le code civil français et qui vient directement du droit romain. Donc, en fait, une philosophie et un droit individualiste avec aucune morale en dehors de la morale des contrats, donc une morale des contrats tout à fait individualiste, et fonction, bien sûr, de l'opinion publique. Avec aussi comme conséquence la négation de la famille, comme cellule fondamentale, il n'y a plus qu'un seul, une seule cellule de base, c'est l'individu. Oui. D'où les droits de l'homme et du citoyen. Et vous avez lu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789, lisez-la. Enfin, c'est un titre historique, c'est extrêmement intéressant, puis on vit encore dessus. Hein. C'est les droits d'un homme qui n'aurait aucune famille et aucune patrie. C'est-à-dire un homme abstrait, pas un homme concret, pas un homme enraciné. Bon. Donc négateur de la famille comme cellule sociale fondamentale et livrant l'individu, du coup, face à l'État. L'individu est lié directement à l'État. Il a des droits formels, mais qui ne sont pas des droits réels. La conséquence, ça a été la misère sociale, ça a été le développement du prolétariat, ça a été le renard libre dans le poulailler libre dont je parlais tout à l'heure. Et ce système a duré, alors grosso modo, jusqu'en 1929. Et c'est la crise de 1929 qui a obligé les États à prendre un certain nombre de décisions. D'abord la guerre de 14, puis la crise de 1929 qui a obligé les États à prendre un certain nombre de dispositions pour essayer de faire face à cette crise sans précédent, crise boursière, puis crise financière et économique. Bon. D'où l'apparition, en contradiction avec le libéralisme, d'une autre idéologie, la deuxième, condamnée également par l'Église, le socialisme. Le socialisme a été d'abord une réaction contre le capitalisme individualiste libéral. Mais une réaction qui était coupée du droit naturel, coupée de l'ordre naturel, coupée de la philosophie politique naturelle, qui d'ailleurs, à la différence du libéralisme, est une tentation très ancienne. Quelqu'un a dit que l'origine du socialisme était chez Platon, dans La République. Ce n'est pas entièrement faux. Quand vous lisez La République de Platon, vous avez effectivement des tendances qui sont très claires au socialisme, si on entend par socialisme, la mainmise de l'État sur l'individu. Vous voyez, dans le libéralisme, vous avez l'individu livré à l'État, et puis dans l'individu livré à lui-même, pardon, et dans le socialisme, vous avez l'État qui gouverne l'individu totalement. Vous voyez, donc, soit on insiste uniquement sur l'individu, soit on insiste uniquement sur l'État. Ben, il faut insister sur les deux, si j'ose dire. Alors le socialiste, d'abord, sa vision est très optimiste. Oui. Sa vision est très optimiste. L'homme est bon, c'est la société qui le corrompt, comme disait Rousseau. Merci pour lui. Voilà. Donc, en fait, la société est fondée sur un contrat social. Les hommes décident de vivre ensemble et de construire une société parfaite dans laquelle chacun va renoncer à sa liberté au profit de la liberté collective. Voilà. Et si on ne veut pas être heureux, on vous obligera à être heureux. Voilà. Comme disait Saint-Just, le bonheur est une idée neuve en Europe. Et puis ceux qui n'ont pas cette conception du bonheur, on va les raccourcir d'une vingtaine de centimètres en leur coupant la tête. Bon. Alors, il y a toujours eu des socialistes. Il y a eu des socialistes utopistes aussi dans le passé. Je passe sur les détails. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu Fourier, il y a eu Saint-Simon surtout. Saint-Simon qui a eu son heure de gloire, puisque Saint-Simon a eu comme disciple Ferdinand de Lesseps, qui a ouvert, pas tout seul, mais qui est à l'origine de l'ouverture du canal de Suez. Et puis ensuite, le canal de Panama, tout ça, ce sont des gens qui sont issus de socialistes. Un socialiste, d'ailleurs, gentil, vous voyez, pas méchant, voulant pas faire de mal, mais croyant à la bonté naturelle de l'homme. Voyez, il suffit d'organiser la société, et l'homme sera naturellement bon. Voyez, c'est physique. Voilà. C'est en quelque sorte, c'est mathématique. Et puis, il y a l'apparition ensuite du socialisme marxiste. Alors ça, c'est 1848, vous voyez, hein, c'est le manifeste du Parti communiste de Marx. Et là, alors, ce qui est nouveau avec Marx, c'est que Marx prétend faire, on en parlera demain, un socialisme scientifique, c'est-à-dire que la conclusion, en fait, du socialisme est le fruit du mouvement de l'histoire, qui est un mouvement inéluctable, qui ne laisse aucune place à la liberté. Aucune place à la liberté. Bon, je n'insiste pas, puisqu'on reviendra demain. Conséquence de l'opposition entre libéralisme et socialisme, une cassure de la société en deux. Cassure entre la droite et la gauche. Et une lutte dialectique entre les deux, avec une bipolarisation, de la vie politique. Avec, de temps en temps, les socialistes et les libéraux se mettant ensemble contre le plus grand danger qu'ils ont vécu à partir de 1917, c'est-à-dire le communisme soviétique, puis chinois à partir de 1949. Donc là, devant la menace qui était une menace pour les libertés les plus basiques effectivement, il y a eu une alliance objective entre les socialistes et les libéraux. Alliance que nous retrouvons sous une forme un peu différente aujourd'hui, mais qui existe toujours, et qu'on peut appeler le système. Vous voyez ? Alors vous allez dire, mais la droite et la gauche, là-dedans, expliquez-nous un petit peu. Ben, la droite, vous savez, la droite et la gauche sont nées, il y a une date de naissance très officielle, il n'y a pas eu de faire part, mais c'est tout comme, le 11 septembre 1789. Le 11 septembre 1789, à la Constituante, quand ceux qui voulaient soutenir le pouvoir du roi se sont mis à la droite du roi. Voilà. Et ceux qui ne voulaient pas, eh ben, se sont mis à gauche. Et c'est comme ça que sont nées les notions de gauche et de droite. Alors, gauche et droite, bien sûr, il y a des différences entre les deux, mais ce qui est surtout important de noter, c'est que c'est la gauche qui définit la droite. Vous avez un petit mot d'Alain, philosophe Alain, j'ai beaucoup de citations, mais on n'aura pas le temps de les voir toutes, hein, loin de là. Alain disait, lorsqu'on me demande si la coupure entre parti de droite et parti de gauche, homme de droite et homme de gauche a encore un sens, la première idée qui me vient est que l'homme qui pose cette question n'est certainement pas un homme de gauche. Et c'est pas faux. C'est pas faux. C'est la gauche qui définit la droite. Là-dessus, vous avez le bouquin de Jean Madiran, qu'il faut absolument lire, sur la droite et la gauche. Très, très, très intéressant. C'est la gauche qui définit la droite. Alors, en fait, la gauche et la droite, le libéralisme et le socialisme, sont des frères ennemis. Sont des frères ennemis parce que... Alors, bien sûr, il y a des points de divergence réels. Si on est de droite libérale, on va insister sur l'individu. Si on est socialiste de gauche, on va insister sur la justice sociale. C'est des mots que vous connaissez. Si on est de droite libérale, on va insister sur le profit personnel, individuel. Si on est de gauche, on va insister sur une œuvre collective à faire ensemble. On est collectiviste. Si on est libéral, on se méfiera de l'État. Si on est socialiste, au contraire, on va insister sur le rôle de l'État, comme redistributeur des richesses, etc. Si on est libéral, ben on dira « laissez faire, laissez passer », ou alors, comme disait Guizot aussi, « enrichissez-vous », qui est un beau programme. Et si on est socialiste, on dira pas du tout, il faut que l'État intervienne et planifie tout ça. Alors, en fait, vous allez me dire « c'est des oppositions importantes », oui, mais, ceci étant dit, ce sont des frères, parce qu'ils ont les mêmes parents, et ces parents, ce sont les mêmes sources d'erreurs. Et c'est ces sources d'erreurs communes qui expliquent la faillite du libéralisme et la faillite du socialisme. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils voient d'abord l'homme comme un homme économique, comme un homme fabricateur, comme un homme producteur. Alors, ou producteur ou consommateur, mais dans les deux cas, c'est du matérialisme pratique, une conception matérialiste pratique. Il n'y a pas de métaphysique, hein, ni dans le socialisme, ni dans le libéralisme. Ensuite, il y a une dialectique, une opposition qui est destructrice totalement de l'ordre social humain. C'est l'individu contre la société, c'est l'autorité contre la liberté, c'est la propriété personnelle contre la propriété collective. Et c'est surtout, ce sont des idéologies de la rupture, ce sont des idéologies du déracinement. Et ça, c'est le fruit de la Révolution française. Il n'y aurait jamais eu le libéralisme économique et politique et social tel qu'il existe aujourd'hui, ni socialiste, s'il n'y avait pas eu la Révolution française. La Révolution française s'explique par ces idéologies qui sont nées un petit peu avant, mais leur explosion en quelque sorte, leur domination dans le monde, s'explique par la Révolution française. Au fond, il y a une erreur commune sur le bien commun. Or, vous verrez que cette notion politique du bien commun, c'est une notion absolument fondamentale. Le bien commun. Au fond, ils réduisent la vie politique à la vie économique. Pour eux, en dehors de l'économie, il n'y a rien d'intéressant. Les socialistes iront même plus loin quand ils sont communistes. Ils diront, par le travail, par l'économie, l'homme se recrée lui-même, il se façonne lui-même, il se transforme lui-même. En transformant la nature, disait Marx, l'homme se recrée lui-même. Donc ça veut dire que c'est complètement anti-théiste, anti-dieu, bien sûr. Hein ? Donc la vie politique est réduite à la vie économique. Bon. Pour la gauche, la vie économique, c'est d'abord la société de consommation par la production et la répartition équitable des richesses. Pour la droite libérale, rien, c'est la société de consommation dans et par la liberté individuelle. Alors, tout ça, je n'ai pas le temps de faire un grand historique, mais c'est important. Il faut quand même que vous preniez le temps ensuite, quand vous serez chez vous, peut-être de prendre des livres, tout ça, pour bien vous mettre ça dans l'esprit, parce que quand on parle en politique avec des gens, c'est important de pouvoir toujours trouver les sources. Vous voyez, quand on connaît la source, on voit comment, dans quelle direction ça va. Et on voit des rapprochements quelquefois extraordinaires. Alors il y a eu des tentatives et réussites d'ailleurs de rapprochement entre libéralisme et socialisme. Aujourd'hui on peut dire que le libéralisme et le socialisme c'est grosso modo la même chose. Enfin la gauche et la droite c'est grosso modo la même chose. C'est-à-dire que les a priori métaphysiques, si j'ose dire, sont les mêmes. La conception de l'homme est la même. C'est la jouissance immédiate. La jouissance immédiate, alors pas la liberté individuelle ou avec le contrôle de l'État, mais finalement le but est bien quand même le même. Voyez. Donc le libéralisme est devenu socialiste et le socialisme est devenu libéral. Et puis, enfin, historiquement parlant, le capitalisme et le communisme ont évidemment collaboré ensemble. On le sait très bien. Solzhenitsyn s'en plaignait beaucoup dans son discours à Harvard. Il disait quand vous vendez des pelles aux soviétiques, au moins ne nous enterrez pas vivants. Oui. Et il disait, le monde est finalement atteint d'une maladie analogue. À l'Est, c'est la foire du parti. À l'Ouest, c'est la foire du commerce. Vous savez, moi je dis souvent, quand j'en parle de la société actuelle, je dis souvent, là où les soviets ont échoué, là où Marx a échoué, Coca-Cola et toutes les sociétés américaines ont réussi. Voilà, ont réussi. Alors, si, est-ce qu'au-delà au-delà de ces idéologies, il n'y aurait pas une autre possibilité, c'est-à-dire d'aller au-delà, de faire une sorte de synthèse et de trouver, comme on dit souvent, une troisième voie entre la gauche et la droite. Alors, il y a eu effectivement des essais de troisième voie historiquement. Il faut les regarder calmement. Il y a eu les crises. La crise, c'était la crise de 14-18, bien sûr, qui a permis l'apparition du fascisme en Italie, avec Benito Mussolini, dont je rappelle qu'il était le rédacteur en chef du journal socialiste L'Avanti. C'était donc un homme de gauche, c'est quand même intéressant de noter, le fascisme n'est pas une idéologie de droite, si on cherche ses origines, c'est une idéologie de gauche, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, alors, essentiellement donc, si je simplifie, anticapitalisme et anticommunisme. Bon, ce qui veut dire qu'on comprend pourquoi des gens ont été attirés, parce que quand la situation de l'Italie dans les années 20, c'était le communisme qui était en train d'envahir tout. Et on comprend très bien la réaction à la fois populaire et de la bourgeoisie, pour utiliser un terme marxiste, qui a dit finalement on va défendre les fascis, les fascistes, parce que c'est la seule solution contre le communisme. Bon, de ce point de vue-là, il n'y avait effectivement pas photo. Donc anticapitalisme, anticommunisme, c'est plutôt sympathique. Mais par contre, l'absolutisation de la nation, le nationalisme absolu, et dans le cas du national-socialiste de la race, ça, par contre, c'est beaucoup plus contestable, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, dans le national-socialisme, l'élément effectivement supplémentaire par rapport au fascisme, c'est le racisme. La prétention scientifique, en plus de ce racisme, qui est totalement, inexistante, cette prétention scientifique, enfin, ces preuves scientifiques, et le cumul, finalement, des deux erreurs des idéologies libérales et socialistes. Quelles erreurs? Le volontarisme orgueilleux et cynique du libéralisme, vous le retrouvez dans le fascisme, et dans le national-socialisme, et le totalitarisme étatique, surtout. Le fait que l'État est appelé à régénérer le peuple et à transformer le peuple selon une idéologie, ça rapproche beaucoup quand même, essentiellement d'ailleurs le national-socialisme, du communisme. Mais, pas oublier que les premières incarnations politiques d'Hitler ont trouvé leurs origines dans la pratique de Lénine. Bon. Il y avait un bouquin extraordinaire là-dessus de l'ancien président du Sénat de Danzig. Conclusion. Si le communisme est la maladie infantile de la gauche, on peut dire que le fascisme, entre guillemets, pétez tous les guillemets que vous voulez, c'est la maladie infantile de la droite. Vous voyez ? Alors, entre parenthèses, sur le fascisme, le mot fascisme est très dangereux parce que c'est un mot de guerre qui a été utilisé, bien sûr, par les communistes. Quand on n'était pas communiste, on était automatiquement fasciste. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège et appeler les choses comme elles sont. C'est ou le régime de Mussolini, ou le régime du petit caporal moustachu, ou d'autres régimes, par exemple, qu'on a connus dans les pays de l'Europe orientale à l'époque, en Roumanie, en Hongrie, etc., en Espagne ou au Portugal, mais là, ce ne sont pas des fascismes au sens que je viens de définir. Je pense en partie du choix que vous aviez une conférence sur Salazar, vous en aurez une, je ne sais plus. Antonio de Oliveira Salazar, c'est le type même de l'homme politique qui a mis en application la doctrine sociale de l'Église. Ça, c'est extrêmement clair. Ce n'est pas du tout un fasciste. Il n'y avait pas de parti unique, il n'y avait pas d'embrigadement de la jeunesse, il n'y avait rien de ce qui caractérise le fascisme. chez Franco, on peut discuter certains aspects, il y a Franco 1, Franco 2, bon, voilà. Mais enfin bon, peu importe, c'est pas le sujet. J'ai fini ma première partie. Bon, on est à peu près dans les temps, comme disait Boulin. Deuxième partie. Il faut maintenant retrouver la politique naturelle, les sources de la politique naturelle et de la civilisation, c'est-à-dire la doctrine sociale de l'Église. Alors, face au libéralisme et au socialisme, il y a eu historiquement, après la Révolution, une réaction des catholiques. Très souvent, on entend dire encore aujourd'hui, et alors dans les livres d'histoire, c'est extraordinaire parce que personne n'en parle, mais personne. Hein. Il y a les communistes, et puis il y a les libéraux. Bon, et on est obligé de choisir entre les libéraux et les cocos. Bon, ben oui, mais le problème, c'est que, historiquement parlant, il y a eu des catholiques, ce qu'on appelait les catholiques sociaux, qui étaient d'ailleurs pour la plupart, voire pour la totalité en tout cas au départ, légitimistes, c'est-à-dire monarchistes attachés à la dynastie légitime de la France, et qui se sont mis au service du peuple, au service de la justice et au service de la charité. Et je dirais avant Marx, bien avant Marx, et mieux que lui. Là aussi, quand vous vous expliquez qu'il a fallu attendre la fin du 19e avec la création de la CGT, puis ensuite le Parti communiste pour qu'il y ait des actions sociales, c'est totalement inexact. Totalement faux. Ce sont des mensonges éhontés et des mensonges volontaires, bien évidemment. Alors, bien sûr, il y a eu dans ces gens à la fois des théoriciens. Vous connaissez tous Joseph de Maistre. Vous avez entendu parler de Joseph de Maistre qui disait « La révolution est satanique ». Il y a eu Louis de Bonald. Et puis, il y a eu aussi des gens comme... Alors, c'est beaucoup plus intéressant. Ça concerne plus notre sujet. Comme Frédéric Leplay, qui est l'inventeur, en fait, des monographies sociologiques, et qui avait fait tout un périple en Europe, et il se demandait quelles étaient les conditions nécessaires pour qu'un peuple soit heureux. Et il avait conclu, alors qu'il n'était pas au départ du tout enthousiasmé par l'Église, hein, enthousiasmé par les positions catholiques, il a conclu que c'était en respectant le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, que les peuples pouvaient devenir heureux. Et plus s'éloignaient des 10 commandements, donc de ce qu'on appelle la loi morale naturelle, plus ils étaient malheureux. Et que même la prospérité économique venait du respect du décalogue. Bon. Il y a eu d'autres personnes que vous connaissez bien sûr, Frédéric Ozanam, le fondateur de la Société Saint-Vincent de Paul, Monsieur le Prévôt, Maurice Maignan, Vuillermet, enfin je passe sur les détails, il y en a énormément. Il y a eu le comte de Chambord, enfin Henri V pour les monarchistes, qui dans les années 1860, je crois que c'était en 1865, il va falloir chercher la date exacte, avait écrit une lettre magnifique aux ouvriers, dans laquelle il expliquait aux ouvriers que la monarchie chrétienne était pour eux le salut et que la monarchie les protégerait contre les bourgeois capitalistes qui ne pensaient qu'à s'enrichir. C'est quand même l'époque, il faut s'en souvenir, hein, où vous aviez des enfants de moins de 10 ans qui travaillaient 12 heures par jour dans les mines. Vous aviez une bourgeoisie catholique dans le Nord. On va arrêter. Vous avez la bourgeoisie catholique dans le Nord, les filatures du Nord, qui utilisaient des enfants de 4-5 ans, dans lesquels tout le monde travaillait, le père, la mère, les enfants, et dans lesquels, malgré ce travail, où tous travaillaient, il n'y avait pas de quoi vivre. Bon, ça, c'était un véritable scandale. Alors, une fois, quand j'ai fait une conférence, c'était à peu près la même, il y a quelqu'un qui m'a dit, après, quand même, vous ne pouvez pas condamner le libéralisme. À l'époque, ils n'avaient pas le choix, la société était comme ça. Ah ben, j'ai dit, cher monsieur, si on avait ce raisonnement-là, il n'y aurait jamais eu le christianisme. Parce que si les apôtres avaient dit « on ne peut rien faire parce que la société est comme ça », jamais le christianisme. Et on doit tirer son chapeau moralement devant ces catholiques qui ont pris beaucoup, beaucoup de risques aussi de se faire traiter de socialistes, de rouges, parce qu'ils ont défendu tout simplement les plus pauvres et ceux qui souffraient d'une situation absolument anormale. Vous avez un autre très grand qui s'appelait Armand de Melun. Armand de Melun, lui, alors malheureusement, il s'est rallié. Vous savez, quand le pape Léon XIII a fait une encyclique dans les années 90 en disant qu'il fallait se rallier à la République pour essayer de transformer la République de l'intérieur. Bon, malheureusement, je pense qu'il s'est trompé. Enfin, on attend la certitude, on voit bien ce qui s'est passé depuis un siècle. Mais Armand de Melun, parce qu'il était obéissant, il a suivi le pape, alors qu'il n'y avait pas matière à obéissance, malheureusement. Mais enfin, c'est comme ça, il a suivi le pape, mais il a fait des choses extraordinaires. Vous avez surtout Albert Demain. Alors le comte Albert Demain, enfin le marquis Albert Demain, René de la Tour du Pin, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Vous avez un livre qui s'appelle « Vers un ordre social chrétien » que je vous recommande, je crois qu'il a été republié il y a quelques années, qui est tout à fait extraordinaire. Et alors il disait, c'est la seule citation que je vais vous donner là, parce que j'aime bien cette citation, Il avait fondé les Cercles catholiques ouvriers en 1871, après la défaite de 70. Il s'était inspiré d'un prélat allemand qui s'appelait Mgr Kettler, qui était évêque de Mayence, et qui avait introduit la doctrine sociale de l'Église romaine à l'intérieur de l'Allemagne, qui à l'époque, je vous rappelle, était essentiellement protestante et très anti-catholique. Donc il avait fait des choses extraordinaires. Et René de la Tour du Pin disait, il y a trois écoles irréductibles en économie sociale, celle où on considère l'homme comme une chose, donc là, je pense que là c'est le libéralisme qui visait, celle où on le considère comme une bête, ça c'est le socialisme, et celle où on le considère comme un frère. Ça c'est la doctrine sociale chrétienne. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle résume bien ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église. Et puis il y a eu surtout l'engagement du pape, l'engagement du magistère de l'Église, qui a explicité petit à petit, par des textes très nombreux, la doctrine sociale, politique et économique de l'Église, qui est un corps de doctrine actualisé encore aujourd'hui. Alors, jusqu'à Rerum Novarum, 1891, j'ai dit 92, c'était 91, jusqu'en 1891, vous avez alors, comme référence toutes les encycliques de Léon XIII. Vous en avez deux qu'il faut lire, c'est Diuturnum Illud et Immortale Dei. Alors, ce sont des encycliques sur l'autorité et sur l'État, le rôle de l'État. Et puis avant, vous avez eu Pie IX, le bienheureux Pie IX, qui a écrit une encyclique, enfin il en a écrit beaucoup, mais il en a une qui est très importante pour nous, c'est Quanta Cura, et surtout le catalogue de toutes les erreurs de notre temps, qui s'appelait, catalogue en latin, Syllabus. Le syllabus, voilà, ça c'est un texte qui a été retiré aussi aujourd'hui, vous pouvez le lire, c'est extrêmement intéressant, parce que ça montre quelle était la position de l'Église, né varietur, on va dire, jusqu'à Pie XII inclus, où il y a un fil directeur qui est extrêmement net. Après, le fil est plus mouvant. Mais moi, je pars toujours du principe qu'il faut interpréter par la tradition les choses nouvelles qui se font, quand elles sont interprétables. Il peut y avoir des cas où, malheureusement, ce n'est pas interprétable, où ce sont des erreurs, et dans ces cas-là, il ne faut pas avoir peur de dire bah, « je pense que ce sont des erreurs, et on explique pourquoi, et on discute ». Alors après Rerum Novarum, qui a eu un impact considérable, vous avez eu le 40e anniversaire de Rerum Novarum, c'est 1931, Quadragesimo Anno, c'est un grand texte du pape Pie XII, 40 ans après, Quadragesimo Anno. Vous avez Divini Redemptoris de Pie XI, Divini Redemptoris, 1937, c'est la grande encyclique de doctrine sociale condamnant le communisme. Le communisme est intrinsèquement pervers et nul ne peut travailler avec lui s'il veut sauver la civilisation humaine et chrétienne. Intrinsèquement pervers, c'est ça. Et puis, vous avez ensuite plus d'une centaine d'allocutions du pape Pie XII. Il n'y a pas une encyclique vraiment, mais c'est des allocutions du pape Pie XII, dont celle de 1941, juin 41, qui est remarquable. Et depuis le concile, enfin, juste avant le concile et depuis le concile, Mater et Magistra, de Jean XXIII, Octogésima Adveniens en 71 de Paul VI, qui est une encyclique très intéressante. Si j'ai le temps, je vous en lirai un petit morceau tout à l'heure. Laborem Exercens, c'est la première encyclique. Ah non, c'est pas la première, c'était 78, c'est la troisième encyclique de Jean-Paul II sur le travail. Et puis ensuite, bon, la dernière, c'est Caritas in Veritate de Benoît XV en 2009. Alors, qu'est-ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église? En deux mots, c'est une lecture, je prends l'expression de Jean-Paul II, c'est une lecture théologique des problèmes modernes. Voilà, c'est une lecture théologique, morale des problèmes modernes. C'est la critique d'abord de ce que Jean-Paul II appelait très justement d'ailleurs des structures de péché. C'est-à-dire qu'il a compris cette chose, qu'avaient bien compris d'ailleurs les philosophes anciens, c'est que dis-moi dans quelle société tu vis, je te dirai ce que tu risques d'être. Quand la structure, quand la société est telle qu'elle est, si elle favorise le bien, il y a plus de chances quand même de pratiquer la vertu. Si elle favorise le mal ou est indifférente, ben, il y a plus de facilité, compte tenu de la pente naturelle de l'homme, de faire le mal. Ben, c'est parfaitement évident, vous voyez. Donc critique des structures de péché et critique surtout des idolâtries, et ça c'est un thème qu'on retrouve beaucoup dans la pensée sociale de l'Église et qu'on retrouve chez Benoît XVI, pardon, c'est la critique de toutes les idolâtries que sont aujourd'hui l'argent, les idéologies, la classe, la technologie, le sexe, le pouvoir. Vous voyez, la Sainte Trinité du monde moderne, c'est le pouvoir, le sexe et l'argent. Voilà. Alors, ceux qui sont les plus formés choisissent les trois ensemble. Et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on forme des gens dans les grandes écoles, moi j'ai fait des préparations, j'ai préparé les élèves à l'entrée au concours d'HEC et de Sciences Po, mais quelquefois, il y a des grandes tentations de se dire, voilà, oui, effectivement, moi ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir, le sexe et l'argent. Alors ça ne prend pas des formes aussi brutales que ça, mais ça revient souvent un petit peu à ça quand même. Hein. Alors, où est-elle contenue? Est-elle réservée aux catholiques uniquement, cette doctrine sociale? Pas du tout. L'Église l'a toujours présentée comme étant réservée, bien sûr, aux catholiques en premier, j'allais dire, c'est normal, parce qu'elle fait partie intégrante de la doctrine de l'Église, mais elle est ouverte à tout homme de bonne volonté. C'est-à-dire à tout homme qui sait utiliser sainement sa raison, son intelligence et sa connaissance de l'histoire. Alors, où est-elle contenue? Elle est contenue dans le magistère des papes, celui qui donne le « là », si j'ose dire, et accord final, c'est le pape, hein, quand il engage son autorité. Évidemment, elle a considérablement... Elle n'est pas une troisième voie, alors ça nous permet effectivement de répondre à ce qu'on disait tout à l'heure. Je cite Jean-Paul II. Hein, « La doctrine sociale de l'Église n'est pas une troisième voie entre le capitalisme libéral et le collectivisme marxiste, ni une autre possibilité parmi les solutions moins radicalement marquées. Elle constitue une catégorie en soi. » Elle n'est pas non plus une idéologie, mais la formulation précise des résultats d'une réflexion attentive sur les réalités complexes de l'existence de l'homme dans la société et dans le contexte international, à la lumière de la foi et de la tradition ecclésiale. C'est pourquoi elle n'entre pas dans le domaine de l'idéologie, mais dans celui de la théologie, et particulièrement de la théologie morale. Voilà hein, ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église. Donc elle n'est pas une troisième voie, elle a une continuité et en même temps elle se renouvelle. Comme le dit Jean-Paul II là aussi, cet enseignement est constant, mais d'un autre côté il est toujours nouveau parce que sujet aux adaptations nécessaires. Bon. Et puis elle n'est pas une solution technique, encore une fois je l'ai dit à l'instant, elle condamne à la fois le socialisme collectiviste et le capitalisme libéral. Alors, par exemple, là aussi, je pourrais citer beaucoup de choses de Jean-Paul II, mais on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Il faut ajouter, dit Jean-Paul II, que l'erreur fondamentale du socialisme est de caractère anthropologique, conception de l'homme. En effet, il considère l'individu comme un simple élément, une molécule de l'organisme social, de sorte que le bien de chacun est tout entier subordonné au fonctionnement du mécanisme économique et social. L'homme est ainsi réduit à une conception à un ensemble de relations sociales, de cette conception erronée de la personne. Vous voyez, c'est, là, les mots du pape, et encore une fois, j'ai pris un pape actuel, pas un pape du 19e. Hein. Donc, il y a une condamnation très claire du socialisme. Mais il y a aussi une condamnation très claire du libéralisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'erreur du libéralisme? Nous dit le pape Saint Jean-Paul II. L'erreur consiste en une conception de la liberté humaine qui la soustrait à l'obéissance de la vérité. Qu'il a soustrait à l'obéissance à la vérité, et donc aussi au devoir de respecter les droits des autres hommes. Le sens de la liberté se trouve alors dans un amour de soi qui va jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Il ne faut pas y avoir de condamnation plus radicale. Hein. Donc, il ne faut pas dire, quand on est catholique, on est plutôt libéral ou plutôt socialiste, on est plutôt rien du tout. Enfin, rien de ces deux choses-là, en tout cas. Puisque ces deux idéologies sont très nettement condamnées, et pas simplement par les papes du 19e, comme on le dit souvent, mais par les papes actuels. Alors, il y a eu bien sûr des conséquences très positives de la doctrine sociale de l'Église historiquement, puisque on l'ignore souvent, mais je le rappelle, beaucoup de lois sociales sur le travail, le syndicalisme chrétien par exemple, les allocations familiales en 1930, sont le fruit de la doctrine sociale de l'Église, qui disait qu'au-delà des contrats, au-delà de la propriété, il y a une loi morale naturelle, il y a des droits humains qui se fondent sur la dignité de la personne. Et qu'aucune société humaine ne peut reposer uniquement sur des rapports d'antagonisme, sur des rapports d'opposition, sur des rapports de force. Bon. En même temps, il faut le reconnaître historiquement, il y a eu une très grande démission des chrétiens. Les chrétiens, malheureusement, sont tombés ou dans le libéralisme ou dans le socialisme. Et ce qui était vrai hier est malheureusement encore plus vrai aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut résumer en quelques phrases la doctrine sociale de l'Église? Oui. Quels sont les principes de la politique naturelle? Ouais, j'aime bien cette expression de politique naturelle. C'est une authentique philosophie politique. Alors, qu'on pourrait résumer à mon avis, en 5 points fondamentaux. Premier point, la personne humaine a une dignité sacrée. Et d'où vient que la personne humaine est digne ? Ça, c'est de la philosophie. La personne humaine a une dignité qui vient du fait qu'elle est responsable, libre de ses actes. Voilà. Alors, je n'ai pas le temps de le prouver ici, hein, mais bon, c'est, hein, le point de départ, c'est ça. La personne humaine a une dignité qui se définit comme le droit d'être une cause responsable de ses actes. De ce principe, deuxième grande caractéristique, doit dériver une organisation de la société organique, c'est-à-dire comme un corps, et dont les trois institutions fondamentales sont, un, la famille, cellule de base de la société, deux, la propriété privée, trois, l'État. Famille, propriété privée, État. Chacun dans son rôle. La famille est la base, toute famille étant propriétaire, et l'État étant chargé de gérer le bien commun. Mais pas de remplacer la famille, ni la propriété privée. Et encore moins de les détruire. Troisième principe fondamental de la politique naturelle, le travail. Et là, il faut reconnaître qu'il y a eu un apport capital de Jean-Paul II. Non pas que les papes précédents n'aient pas réfléchi au problème du travail, il y a des allocutions de Pidoux sur les travailleurs qui sont absolument extraordinaires, mais il est le premier à avoir en quelque sorte formalisé, approfondi dans son encyclique Laborem Exercens, la notion du travail humain. Le travail, c'est pas simplement le fait de se fatiguer pour gagner sa vie, c'est ça aussi. Mais le travail, c'est aussi ce qui permet de se réaliser, ce qui permet à la personne humaine d'exprimer, de se perfectionner, à la fois intérieurement et extérieurement. Donc on peut dire que la société chrétienne, c'est une société du travail, mais du travail au service de la personne. Pas du travail au service de l'argent comme dans le libéralisme, pas au service de l'État comme dans le socialisme. D'où quatrième conséquence, la société, toutes les relations dans la société, doivent concourir à l'unité du peuple. Pas aux dissensions, pas à la dialectique. Et une unité dans l'équité. Alors l'équité, c'est plus large que la justice. C'est pas simplement rendre à chacun ce qui lui est dû, ça c'est la justice. C'est l'équité, c'est la proportion réservée à chacun en fonction de ce que chacun est, en fonction de ses besoins. Voyez ? L'unité, donc dans l'équité et dans l'amitié. Alors ça, la doctrine sociale rejoint bien sûr ce que disait Aristote dans la politique, hein. Sur l'amitié qui est en quelque sorte à la fois le ciment et le but de toute société humaine. L'amitié de tous les membres du corps social. Et l'Église nous dit comment y arriver ? Bien, tout simplement entre les familles et les personnes à la base, et l'État au sommet, avoir une multitude de corps intermédiaires entre les familles à la base et l'État au sommet. Et ces corps intermédiaires, eh bien, c'est quoi ? Ce sont les communes, ce sont les provinces, ce sont les métiers, ce sont les associations, bref, tout ce qui fait la vie absolument luxuriante d'un peuple, avec toutes les initiatives individuelles, communautaires, privées, indépendantes de l'État. Le rôle de l'État n'étant pas de les étouffer, mais évidemment de les surveiller et de les organiser en vue du bien commun. Car l'État est garant, bien sûr, du bien commun. D'où le cinquième et dernier principe, il y en aura peut-être d'autres, mais je pense que c'est les 5 fondamentaux. Le principe de subsidiarité, dont la première expression se trouve, à ma connaissance, dans l'encyclique de Pie XI qui s'appelle Quadragesimo Anno, 1931, et qui consiste à dire, alors j'ai peut-être le texte ici, je ne suis pas sûr, tant que je cherche, on y sera encore demain. Non, je n'ai pas vraiment le texte, mais j'ai celui de Jean-Paul II qui résume. Il convient de respecter également le principe de subsidiarité. Alors, qu'il énonce de la façon suivante. Une société d'ordre supérieur ne doit pas intervenir dans la vie interne d'une société d'un ordre inférieur en lui enlevant ses compétences, mais elle doit plutôt la soutenir en cas de nécessité et l'aider à coordonner son action avec celle des autres éléments qui composent la société en vue du bien commun. Par exemple, je prends un exemple, l'éducation. En France, on a un ministère qui s'appelle le ministère de l'Éducation nationale. Bien, on est le seul pays au monde, d'ailleurs. Avant, il y avait l'Union soviétique. Non, il y a la Chine. Et la Corée du Nord, qui sont des pays hautement favorables au développement intégral de la personne humaine, surtout dans ses aspects spirituels. Bref, nous avons un ministère de l'Éducation nationale qui s'occupe d'enseigner et qui s'occupe d'éduquer. Sauf que l'enseignement et l'éducation, ce n'est pas le rôle de l'État. C'est le rôle des familles. Et que l'État doit supplier éventuellement les défaillances des familles et puis des associations, mais ne doit pas remplacer. Voilà un exemple où le principe de subsidiarité n'est pas appliqué. L'État, normalement, devient subsidiaire, c'est-à-dire se substitue à une défaillance éventuelle d'un échelon inférieur, si cet échelon inférieur pêche ou ne fonctionne pas. Oui. Bien sûr, bien sûr, absolument, oui, j'ai pas abordé ici le problème de l'Église, mais parce que les familles qui sont catholiques ont le droit d'avoir une éducation conforme à la foi et à l'enseignement catholique. Alors, moi, j'étais proviseur dans un établissement d'enseignement catholique, je peux vous dire que ça, c'est la théorie, après, dans la pratique, c'est parfaitement évident qu'il y a de très très grosses différences entre ce qu'enseigne l'Église et ce qui est enseigné dans des établissements catholiques sous contrat avec l'État. Mais ceci est un autre problème. Tout ça pour dire que le principe de subsidiarité, c'est un principe de liberté fondamentale pour la base. De ce point de vue-là, on est assez spontaniste, nous, cathos, hein. On est un peu comme les Mao Spontex en 1968, hein. La vérité, elle vient de la base. Ça, c'est vrai, ça. Et l'État n'est là que pour coordonner, pas pour remplacer. L'État, ce n'est pas un grand instructeur. L'État, ce n'est pas une grande religion qui s'impose à tous. L'État, ce n'est pas les valeurs de la République, on les leur laisse. L'État, ce n'est pas cette morale laïque et arrogante qu'on voudrait nous imposer, et dont d'ailleurs tous les faits politiques montrent aujourd'hui qu'elle n'est pas respectée par ceux-là même qui la défendent. Donc, doucement les basses, si j'ose dire. Hein ? Voilà, donc ce sont les principes fondamentaux, hein, de la doctrine sociale de l'Église. Alors après, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le concret, on essaie de synthétiser, hein. Dans le concret, il faut, quand on veut s'engager en politique, avoir une position de chrétien en politique. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer de regarder dans tous les programmes politiques qui nous sont proposés, plutôt dans toutes les idées politiques qui sont avancées, tous les systèmes politiques qui nous fait miroiter. Quels sont les programmes ou les systèmes qui s'éloignent le moins, un, de la primauté de la personne? Alors la primauté de la personne, c'est des conséquences très pratiques. Ça veut dire, c'est pas simplement comme ça, oui, primauté de la personne, c'est un mot. Non, ça veut dire respect intégral de la personne, de sa conception naturelle, de sa conception initiale à sa mort naturelle, c'est-à-dire le respect de la vie. Bon, alors là, je veux dire aujourd'hui, quand vous regardez les différents programmes politiques, vous avez déjà une certaine, hésitation, hein, pour être gentil. Hein. Pourquoi respect de la vie ? Parce que pour nous chrétiens, et pas simplement d'ailleurs pour nous chrétiens, mais je pense que pour tout homme qui manie bien la philosophie, indépendamment de la foi, il y a quelque chose de sacré dans l'être humain, parce que l'être humain est à l'image de Dieu. Bon, ça, c'est intangible, incontournable, c'est un principe qui ne connaît aucune exception. Aucune. Bon, donc déjà, ça veut dire que vous pouvez éliminer aujourd'hui tous les candidats qui se présentent à la présidence de la République, y compris ceux qui se présentent comme cathos. Quand vous pensez qu'il y en a un qui se présente comme cathos et qui ose dire « Oui, moi, à titre personnel, je suis contre l'avortement », mais politiquement, ça fait partie, il a osé dire, ça fait partie du bien commun de la France. C'est une honte. Moi, je préfère un gars comme Mélenchon, qui a au moins le courage d'aller jusqu'au bout, mais il est logique avec lui-même. On ne peut pas lui dire qu'il n'est pas logique avec lui-même. Il est athée, il est marxiste, il est... Bon, il parle bien. Donc, non, mais je veux dire, voilà. Mais là, c'est totalement scandaleux. Mais je ne comprends pas comment un homme qui a une formation de catho puisse dire une chose pareille. Et il y en a d'autres... un petit peu plus à droite, qui présente aussi le laïcisme comme étant quelque chose qui fait qu'on ne va pas toucher. Bon, ça, tout ça me paraît enfin, un peu bizarre. Mais là-dessus, c'est une opinion personnelle, et comme disait l'autre, je la partage. Bon. Donc il y a primauté de la personne. Regardez la primauté de la personne. C'est-à-dire, est-ce que la personne humaine, dans votre système, elle a un droit d'initiative économique? Est-ce qu'elle a un droit de liberté religieuse? Quand je dis liberté religieuse, là, il faudrait beaucoup nuancer aussi, parce que quand je dis liberté religieuse, c'est la liberté d'adhérer à la foi catholique. Je ne pense pas uniquement à la liberté d'adhérer à toutes les erreurs ou les religions, comme par exemple les adorateurs du nombril, etc. Bon, moi j'ai beaucoup de respect pour la liberté individuelle, mais il y a quand même des oseaux. Hein. Donc, liberté religieuse. Liberté d'association. Oui. Bon, il y en a d'autres. Enfin, c'est fondamental. Bon. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, le mariage et la famille. Est-ce que le mariage et la famille dans le système, qui sont le fondement de la société, sont effectivement protégés, développés? Est-ce qu'il y a des assurances qui font que? Est-ce qu'on va donner des aides? Est-ce qu'on va favoriser, alors c'est le troisième aspect, l'éducation? Est-ce qu'il y a des droits de la famille dans l'éducation? Ou est-ce que l'éducation est monopolisée par l'État? Oui.
Mais est-ce que du coup, les aides, comme certains proposent, effectivement, les aides, par exemple, les subventions pour les femmes mariées, est-ce que ce n'est pas une atteinte justement au principe de subsidiarité?
Non, parce qu'en fait, les familles payent des impôts. Ces impôts, c'est la participation aux frais de la collectivité. Et la collectivité ne fait dans ces cas-là que leur rendre une partie de ce qu'elles ont donné à la collectivité, parce que la mère de famille assure une fonction fondamentale, qui est effectivement l'éducation des enfants. Donc le fait qu'il va y avoir demain, d'un point de vue matérialiste, qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont pouvoir travailler donc, et payer les retraites, et donner des sous à l'État, et puis du point de vue surnaturel, de créer des enfants adorateurs du bon Dieu. Hein ? On peut être sur le même plan et avec à des niveaux différents. Hein ? Oui. C'était un père capucin, c'est Gustave Thibon qui m'a raconté ça une fois, parce que j'ai eu la chance de beaucoup bien connaître Gustave Thibon. Il me disait, le catholicisme est extraordinaire parce que c'est une religion où il y a des mangeoires à la hauteur de tous les museaux. Donc vous pouvez le prendre très bas, vous pouvez le prendre très haut, vous pouvez le prendre au milieu. J'ai trouvé que c'était mignon. Bon, par exemple, dans l'éducation, il y a un point fondamental. En France, alors ce n'est pas le cas dans d'autres pays, je prends le cas de la France, c'est la séparation de l'école et de l'État. En 1905, on a séparé l'Église de l'État, bon, qui était d'ailleurs une belle... Quand je pense qu'aujourd'hui, vous avez, pardonnez-moi, hein, vous avez des évêques, des prêtres, voire même plus haut, qui disent que c'est extraordinaire, qu'il fallait séparer l'Église de l'État. Il n'a jamais fallu séparer l'Église de l'État. Le Christ a dit, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, n'est-ce pas, et à César ce qui est à César, mais il n'a jamais dit qu'il fallait séparer César de Dieu. Oui.
Enfin, en soi, je suis d'accord, mais au vu des circonstances de l'époque, je comprends que la droite et les catholiques aient souhaité la séparation.
Ah non,
c'est un gouvernement anticlérical qui gérait le concordat.
Ils n'ont pas souhaité.
Comment?
Ils n'ont pas souhaité du tout.
Ah si, si, la droite et le...
Ah non.
Ah, si, si.
Ah bah la droite libérale. Oui, la droite libérale, mais pas... Oui,
même les catholiques engagés en politique...
Ah non, au contraire. Ah non, au contraire. Ça a été une lutte terrible au moment des inventaires.
Oui, après la séparation, après la séparation...
Non, juste au moment de la séparation. Saint-Pilice...
C'est ceux qui ont voté qui...
Ah non, c'est les libéraux. Ouais. Non, les catholiques qui étaient au Parlement, dont Albert Demain, dont je parlais tout à l'heure, par exemple, tous votaient contre. L'Église, d'ailleurs, le Pidis avait dit... la séparation de l'Église et de l'État est une monstruosité. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas modifier le concordat.
Oui,
le concordat, effectivement, c'est le concordat de Napoléon. Bon,
c'est
donc...
Qui contrôlait l'Église de France.
Exactement. Donc, mais non, non. Alors, quand on dit la droite libérale, oui, bien sûr. Tout ce qui pouvait gêner l'Église. Pour elle, l'Église, c'était le grand gendarme du peuple. Donc, tant que le peuple allait à la messe, il ne s'occupait pas de ses revendications sociales. Bon, donc, voilà, très bien. Mais pour les vrais cathos, c'est-à-dire les catholiques sociaux, qui étaient encore à ce moment-là en grande partie royalistes, eh bien, ils ont absolument été contre la séparation de l'Église et de l'État, puisque le principe de la séparation de l'Église et de l'État considère finalement que l'État doit être neutre. Or, il n'y a pas de neutralité possible par rapport à la vérité, donc l'État neutre, c'est l'État athée. Et d'ailleurs, les conséquences depuis plus d'un siècle maintenant, depuis 1905, sont très claires. Quand on entend ce qu'on entend aujourd'hui, c'est le fruit direct de la séparation de l'Église et de l'État. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'entend pas en Alsace et en Lorraine. Pourquoi? Parce que l'Alsace et la Lorraine, qui avaient été prises par les Allemands en 1870, eh bien, a exigé de conserver son concordat en 1918. Il y avait même eu un mouvement séparatiste alsacien qui dit plutôt allemand que pas catholique. Et nous voulons que nos prêtres et nos évêques soient payés par l'État. On ne veut pas des miséreux. Parce que regardez de l'autre côté de la frontière ce que vous êtes devenus. Mais ce n'est pas faux. Donc, alors entre parenthèses, d'ailleurs, la gauche aujourd'hui songe à supprimer le Concordat, hein, en Alsace et en Lorraine. Oui. Et l'Église, finalement, en France, pour finalement pas si contre que ça, parce qu'ils sont plus laïcs que les laïcs, évidemment. Vous voyez. Bon, où j'en étais. Alors, autre chose où il faut être très attentif, la propriété privée. Propriété privée. Là aussi, veiller dans un système politique, dans un programme politique, est-ce que la propriété privée soit le maximum diffusée pour toute personne, pour toute famille ? Avec la réserve que j'ai faite tout à l'heure, la propriété privée, ce n'est pas le droit d'user et d'abuser de ce qu'on a. L'utilisation de sa propriété privée doit correspondre à des normes morales. Et il y a bien une destination universelle des biens. Quand les papes actuels le rappellent, ils ont raison. Ça a toujours été classique. Autre aspect sur lequel il faut faire très attention, les corps intermédiaires, les corps sociaux intermédiaires. La société doit être un corps organisé, et c'est ce que disait le pape Pie XII quand il distinguait le peuple de la masse. Il disait un peuple, c'est un peuple vivant, organisé dans les structures vivantes qu'il gère lui-même, avec la spontanéité de sa liberté et de sa responsabilité, alors que la masse, c'est une masse informe, qui est en quelque sorte animée par les médias, bon, on y est en plein aujourd'hui, hein, Panem et Circenses, hein, les pains et des jeux, et gouvernée par l'État et ceux qui gouvernent l'État. Aujourd'hui, c'est en très clair, les lobbies mondialistes, financiers et immoraux, et la franc-maçonnerie. Vous voyez ? Alors moi, j'aurais aussi une autre revendication, séparer l'école de l'État, séparer la franc-maçonnerie de l'État. C'est possible. Je ne suis pas sûr que, si on proposait ça au Parlement, ça soit très, très populaire. Alors, aussi, autre point, il y aurait beaucoup de choses, hein, mais je suis obligé de simplifier, bien sûr. Autre chose, les entreprises. Alors, là aussi, veillez à ce que, dans l'entreprise privée, où il y a du capital et du travail, la priorité revienne toujours, en définitive, au travail. Bon. Alors, quand on dit ça, on dit, mais vous êtes socialiste. Pas du tout. Si vous prenez la Bohème Exertions, vous voyez la spiritualité du travail, j'en parlais tout à l'heure, si dans une entreprise, il y a le lien entre le capital et le travail, c'est toujours au profit du travail, parce que le seul qui travaille vraiment, c'est la personne humaine. Le capital travaille aussi, comme on dit quelquefois, les financiers disent « capital travaille », mais je ne l'ai jamais vu transpirer. Donc, quand on parle de l'entreprise, il faut insister sur la responsabilité du chef d'entreprise, donc tout ce qui favorise la responsabilité du chef d'entreprise, la création des entreprises, la responsabilité du chef d'entreprise et la participation d'un maximum de salariés à l'entreprise, alors selon des formes extrêmement différentes. Ça peut être l'actionnariat, ça peut être... Ce qui est souhaitable, en tout cas, c'est une organisation professionnelle qui ait des droits, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Oui, alors, ça ne peut pas être les corporations telles qu'elles existaient auparavant, bien sûr. Puis le mot corporation est un peu dangereux parce que à la fois Mussolini et Hitler l'ont utilisé. Et ils avaient... Les corporations, en fait, n'étaient pas libres, c'était des corporations étatistes. Donc je pense qu'il faut mieux ne pas utiliser ce terme aujourd'hui, ou alors l'expliciter vraiment, pour pas qu'il y ait d'équivoque. On peut dire tout simplement, organisation de droit public reconnue par la loi et qui fait que le métier est organisé par ceux qui le font. Et un peu comme des ordres, les ordres des médecins, les ordres des pharmaciens, les ordres des avocats, vous voyez, création du maréchal. Il faut le rappeler. Non, moi j'habite Vichy. Hein. J'habite Vichy, donc je n'ai aucune honte à en parler. Mais c'est un beau sujet, ça aussi, un jour, si ça vous intéresse, je pourrais faire un truc sur l'État français. Voilà.
Vous allez trouver un auditoire.
Et donc, rappelez aussi, et je vais terminer bientôt, rappelez que le droit public doit servir le droit privé, non pas l'inverse. Le droit public doit servir le droit privé, non pas l'inverse. Et enfin, le rôle de l'État. Quel est le rôle de l'État ? L'État, Pie XII disait, il y a une très belle formule de Pie XII sur l'État, l'État, c'est l'unité organique et organisatrice d'un vrai peuple. J'aime beaucoup cette définition parce que c'est exactement ça. Oui, je la répète. Unité organique et organisatrice d'un vrai peuple.
C'est
de Pie XII. C'est Pie XII. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le rôle de l'État, c'est de mettre toujours en avant, c'est de dépasser l'idéologie, bien sûr, pas être dans l'idéologie, dépasser l'idéologie par le bien commun politique. Le rôle de l'État, c'est le bien commun de la patrie. Voilà. C'est pas le bien du peuple de droite contre le peuple de gauche, et inversement, c'est développer l'amitié politique entre tous les membres de la société, et en l'occurrence pour les Français, entre tous les Français, membres d'un même corps social. Quant à la démocratie, pardon pour le gros mot, il y a un texte de Jean-Paul II, alors j'espère que je vais le retrouver. Alors, je voudrais terminer par un texte d'abord de Paul VI. Paul VI n'est pas forcément ma tasse de thé. Mais en l'occurrence, ne nous plaignons pas de Paul VI quand on voit aujourd'hui. Donc, Octogésima Adveniens, qui est un texte très important de Paul VI et qui est remarquable à bien des égards, il y a ce paragraphe 26 que je vais vous lire parce qu'il résume à peu près tout ce que je vous ai dit. Le chrétien qui veut vivre sa foi dans une action politique, c'est bien ça le sujet, conçu comme un service. L'homme politique se sert aujourd'hui, alors que l'homme politique devrait servir. L'action politique conçue comme un service. Ne peut-il, sans se contredire, adhérer à des systèmes idéologiques qui s'opposent radicalement ou sur des points substantiels à sa foi et à sa conception de l'homme? Deux points. Ni à l'idéologie marxiste, à son matérialisme athée, à sa dialectique de violence et à la manière dont elle résorbe la liberté individuelle dans la collectivité, en niant en même temps toute transcendance à l'homme et à son histoire, personnelle et collective. Ni à l'idéologie libérale qui croit exalter la liberté individuelle en la soustrayant à toute limitation, en la stimulant par la recherche exclusive de l'intérêt et de la puissance, et en considérant les solidarités sociales comme des conséquences plus ou moins automatiques des initiatives individuelles et non pas comme un but et un critère majeur de la valeur de l'organisation sociale. C'est remarquable. C'est synthétisé. Chapeau, Paul. Alors, conclusion. Vous me laissez 5 minutes ?
Oui,
je vous prends sur votre temps libre, là. Hein. Vous êtes sûr ? Bon. Conclusion. En 3 points. 1. Il faut se rappeler que la doctrine sociale de l'Église, elle est couronnée par une encyclique, dont je ne vais pas parler parce que je réserve le meilleur pour la fin, qui est l'encyclique Quas Primas du pape Pie XI sur 1925, Quas Primas, P-R-I-M-A-S, sur le Christ roi. C'est l'encyclique qui établit la fête liturgique du Christ roi, dernier dimanche d'octobre, chaque année. Qu'est-ce que c'est que la doctrine du Christ roi? Ça veut dire que le Christ, bien sûr, est roi par sa naissance, roi par sa conquête, vous connaissez tout ça. Il est roi des individus, il est roi des familles, il est roi des communautés naturelles, il est roi des nations, il est roi du monde. Le Christ est roi politique. Le vrai roi politique pour nous, c'est le Christ. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir ici ou là quelques bonnards qui traînent, et auquel on peut éventuellement s'inféoder. Je n'ai rien contre. Je suis un vieux monarchiste catholique, réac, donc ça ne me fait pas peur du tout. Mais vous voyez ce que je veux dire. Le Christ est roi, et c'est pour lui que nous travaillons, c'est pour lui que nous voulons étendre son règne. C'est la devise de Saint Pie X, Omnia instaurare in Christo. Tout restauré dans le Christ. Bon, je crois que cette devise, on peut la garder, on peut la mettre là. Je sais, quand j'avais votre âge, j'ai été frappé par cette devise, et je me suis dit, bon sang, mais c'est extraordinaire, c'est magnifique. Omnia instaurare in Christo. Alors instaurare, ça veut dire restaurer, hein, pas ça veut dire instaurer, restaurer. Omnia instaurare in Christo. Ça veut dire, pratiquement, rejeter les idéologies, pour ça il faut les connaître, et pour les connaître, il faut se former. C'est ce que vous faites, bravo. Dire la vérité contre libéralisme et socialisme, c'est ce qu'on a essayé de faire ensemble. Pourquoi ? Parce que la vérité libère. Veritas liberabit vos, la vérité vous rendra libre. Revenir à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel ? C'est la personne humaine et c'est Dieu. C'est la personne humaine et c'est Dieu. Et enfin, toujours dans ce retour au réel, ce retour au Christ roi, former des cercles, des clubs de réflexion, de propositions, ce qu'on appelait, quand je travaillais à la Cité catholique, on appelait ça une amitié au service du vrai. C'est beau, hein, comme définition. Une amitié au service du vrai. Ben voilà, c'est ce qu'il faut faire. ont créé, en quelque sorte, une élite d'hommes et de femmes de service public qui sauront promouvoir la charité politique. Car la politique est la charité la plus grande qu'on doit aux autres après l'annonce de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la politique, polis, c'est la cité. C'est l'organisation de la cité. Et de la forme donnée à la cité, disait Pie XII, dépend ou non le salut des âmes. De la forme donnée à la société dépend ou non le salut des âmes. Oui. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut réformer impérativement les structures de la société de demain. Bon. L'apostolat, j'ai rien contre. Je suis même plutôt pour. Mais enfin, quand on fait un apostolat dans une société dont toutes les lois sont orientées pour détruire ce qui reste de naturel dans la société et ce qui reste de chrétien, c'est beaucoup plus difficile de faire de l'apostolat. Quand l'État et la société en général, et la culture surtout, sont favorables au minimum à la loi morale naturelle, on arrive plus facilement à faire de l'apostolat, à convertir. Parce que c'est pas nous qui convertissons, bien sûr, c'est Saint-Esprit. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Les structures ont un rôle indispensable, un rôle auxiliaire. Il faut réformer les structures, je précise tout de suite, en réformant d'abord nos structures. La nôtre, là. La vraie révolution est intérieure. La révolution, ce n'est pas d'abord révolutionner autour de nous, c'est de se révolutionner intérieurement. Ce que les Grecs appelaient la métanoïa, hein, se retourner, hein, changer de vie. Voilà, ça c'est important. Vous voyez ? Avec en même temps... Alors, ce que n'ont pas toujours les catholiques légitimistes, un peu raides dans leurs bottes, un peu le sens du possible et du contingent. Vous voyez, il y a quelques jours, le jour des Rameaux, je déjeunais avec un chanoine d'un institut très... Voilà. Alors qu'il y a monarchie jusqu'au bout des ongles, etc., mais beaucoup de dentelles et tout. Bon... Et qui me disait, moi de toute façon je vote pas parce que je suis monarchiste et donc je veux pas voter parce que c'est pas du tout ma conception, etc. Et d'ailleurs le roi Bip a dit qu'il votait pas non plus parce qu'il n'était pas républicain. Ben, je dis oui, bien sûr, en théorie c'est sûr que c'est très bien, il faudrait, etc., etc. Enfin on va pas reproduire le comte de Chambord. Vous savez ce qu'a dit Pie IX à ce moment-là, hein, et pourtant c'était Pie IX. Hein. Il a dit, je comprends pas que pour une histoire de torchon ou de serviette, je sais plus ce qu'il a dit. Le comte de Chambord n'est pas rayé. Bon, alors non, le mot est un peu excessif. Mais, je veux dire, quand on a des beaux principes, c'est très bien les beaux principes. J'ai rien contre les principes. Il y en a qui s'appuient tellement dessus qu'ils les écrasent, d'ailleurs. Allez. Bon. Mais les principes, ça ne vit que lorsque c'est appliqué. Et si on ne peut pas les appliquer, on est comme les Kantiens. Ah, ils ont les mains pures, disait... c'était Peggy qui disait ça. Ils ont les mains pures, mais ils n'ont pas de mains. Moi, je ne vais pas me mêler de tout ça. Je ne vais pas mêler de tout ça, c'est trop moche, c'est pas... Oui, mais enfin, après, ne se plaignons pas que la situation se dégrade de plus en plus. Bon. Donc, il faut donner, en fait, une doctrine à la politique actuelle. Voilà. Et cette doctrine, nous l'avons. Et puis, enfin, troisièmement, et je termine là-dessus, définitivement, il faut réformer les mœurs. Oui. Revenir au réel, réformer les structures et réformer les mœurs. Car si on ne réforme pas les mœurs, eh ben, on ne réformera pas l'esprit, et il faut l'esprit plus que des lois. La meilleure des lois, si elle ne tombe pas sur un terreau qui est favorable parce qu'il y a un certain esprit, l'esprit public correct, ben ça ne marchera pas. Donc il faut ce que disait Renan au lendemain de la guerre de 70, il faut une réforme intellectuelle et morale. Ce que prônait mon ami Jean Madiran. Jean Madiran, toute sa vie, a dit ce qu'il faut, c'est une réforme intellectuelle et morale. Voilà. Ben, il faut une réforme intellectuelle et morale. Parce qu'il faut des écoles, parce qu'il faut des lieux de vie, des universités, il faut des endroits comme ce monastère, où on réapprend ce que c'est que la philosophie du réel, on réapprend ce que c'est que la foi, on réapprend ce que c'est que de vivre dans une société humaine. Vous voyez ? Encore une fois, la vraie révolution, elle est intérieure. Elle commence par la vie spirituelle de la personne. Elle commence par une nécessaire conversion. Elle commence par le rôle de l'exemple. Et l'ordre social, il doit être d'abord en nous. L'ordre chrétien, il doit être d'abord en nous, puis autour de nous, par l'apostolat, par des micro-chrétientés. Moi, je crois beaucoup aux petits cercles, je crois beaucoup aux petites organisations qui pullulent, vous savez, qui se disséminent comme ça, et qui font un peu, comme disait Mao, d'heureuse mémoire, comme le poisson dans l'eau. Mais il faut que nous soyons, nous aussi, comme le poisson dans l'eau. Ça tombe bien, le poisson, c'est Ictus, et Ictus, c'est nous. Amen. Pardon, j'ai été trop long, hein. J'ai pris un quart d'heure sur votre...